Dans tout ce que vous dites sur cet opéra, en fait, on sent vraiment des choses contradictoires du temps présent, de la vengeance, de ces apparitions un petit peu plus mystiques, de l'envie de se retenir. Enfin, ça a l'air très fort émotionnellement aussi.
Oui, c'est très fort. Il n'y a jamais de temps mort. Il y a à peine des petits moments des petits moments, je dirais, d'épisodes un tout petit peu anecdotiques pour alléger l'atmosphère, notamment au début des derniers actes, l'apparition de deux fossoyeurs, hein, comme dans la pièce de Shakespeare, qui viennent, voilà, donner un petit ton populaire, tout en parlant des choses très graves que sont, la vie et la mort. Et le personnage d'Hamlet, en fait, fluctue au gré des épisodes, avec par moments des choses qui pourraient être très joyeuses dans un autre contexte, mais qui sont toujours sous cette lumière un peu noire.
Ce que j'ai trouvé intéressant aussi en me penchant sur cette œuvre, c'est de voir qu'on part d'un texte écrit au XVIe siècle par Shakespeare en Angleterre. Puis là, on est sur un livret, une partition, une écriture du 19e siècle avec Hamlet pour arriver à une mise en scène, quelque chose de contemporain, du 21e siècle. C'est quand même, sur une période de centaines d'années, en fait.
Oui, mais ça, c'est la magie de l'opéra, c'est la magie aussi de notre culture occidentale, qui a tout de même tellement, tellement d'arrière-plan, de background, et surtout qui a pris conscience à partir surtout du 18e siècle et du 19e, de l'importance de certaines choses qui étaient des choses du passé, mais qui nous parlaient toujours et qui nous parleront toujours. C'est toujours extraordinaire de se dire que. Voilà, Shakespeare, c'est d'une modernité toujours extraordinaire. Mozart, c'est d'une modernité extraordinaire. Molière, bien sûr. Donc plein de choses du passé continuent de nous parler, et c'est là où nous, les gens d'opéra, on est tellement passionnés par notre travail parce que on traverse les siècles et surtout on les fait résonner entre eux. Et ce qui se dit dans Hamlet, c'est quelque chose qui parle toujours et qui parle encore très très bien à un spectateur du 21e siècle, de même que la pièce de Shakespeare a été capable de parler 2 siècles plus tard à un compositeur français comme Ambroise Thomas. C'est cette chose merveilleuse de notre civilisation occidentale, qui est une civilisation avec une belle mémoire. La mémoire du passé, c'est une mémoire vivante et que nous savons. Nous, dans les arts français, continuer de garder vivante.
Donc Hamlet, ce sera le 24 et 26 novembre. Et vous proposez aussi, alors sur la représentation du dimanche, je voulais quand même le signaler, il y a une garderie qui est proposée. Si des personnes veulent venir voir le spectacle et ne savent pas comment faire garder leurs enfants, ça c'est aussi c'est une belle démarche de votre part.
Oui, c'est une démarche réaliste aussi parce qu'on sait très bien que pour les parents qui sont en train d'élever des enfants, l'opéra, ça devient, s'ils ont aimé ça avant, un petit peu hors de portée parce qu'on pense que évidemment on ne peut pas emmener les enfants voir Hamlet, donc on va plutôt faire des sorties avec eux d'une autre nature. Donc nous, on essaie de les faire revenir à l'opéra et l'un des moyens de les faire revenir, bah, c'est de proposer de garder leurs enfants pendant ce temps-là. C'est un service qui est très apprécié de nos spectateurs.
Et il suffit de s'inscrire au moins une semaine avant. Les enfants doivent avoir entre 3 et 6 ans.
C'est ça.
Tout simplement.
Oui, parce qu'à partir de 6 ans, ils sont assez grands pour voir des opéras déjà.
Oui, parce que là, ça dure 3h30 à peu près. Donc effectivement, pour
Ça
les
dure
tout
un petit peu
petits.
moins que 3h30. Il y a 2h30, 2h40 de musique.
Ouais.
Mais vous savez, ça file à une vitesse. Ça, c'est l'intérêt des opéras qui sont très bien construits et qui sont sur des sujets haletants, hein, comme peuvent l'être les pièces de Shakespeare. Donc, ça file tout du long.
Et à l'issue de la rencontre, enfin de la représentation du 24, on pourra aussi rencontrer les artistes et l'équipe du spectacle.
Ouais, ça, c'est une nouveauté de la saison.
Ouais. Donc on pourra leur poser des questions, les féliciter. Ok, tout simplement. Je redonne les dates. Donc Hamlet de Ambroise Thomas, d'après Shakespeare bien sûr. Le dimanche 24 novembre, c'est à 16h. Le mardi 26 novembre, c'est à 20h. Et c'est bien sûr au Grand Théâtre à Angers. Alain, vous avez choisi un autre extrait de cette pièce. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
C'est tout simplement le moment où apparaît le spectre et juste avant qu'il ne parle, Hamlet est saisi de reconnaître l'image de son père, et ce qu'il chante est complètement imprégné de cette couleur fantastique que j'évoquais à l'instant.
Eh bien, nous l'écoutons. Et pour cause de soucis techniques, je dois rendre l'antenne. Nous ne pourrons pas entendre ce deuxième extrait de Hamlet. J'en suis désolée. Sachez que l'intégralité de cette émission consacrée à Angers-Nantes Opéra sera disponible sur le site de Radio G à la page de l'Oreille Curieuse. Et sachez aussi qu'il y a un super concert intitulé « C'est quoi cet accent ?» dans le cadre de « Ça va mieux en le chantant ». Vous retrouverez tout sur le podcast. Un très grand merci à l'équipe de Bande Geek Mafia qui est super nombreuse ce soir, qui me regarde avec des grands yeux et qui a eu l'extrême gentillesse de m'offrir 5 minutes de leur temps d'émission et de m'offrir sans doute un nombre considérable d'auditeurs de leur émission. À demain, à l'heure habituelle de l'Oreille Curieuse, je vous laisse avec Bande Geek Mafia.
La Creature Shock Radio FM. The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.
Bonjour et bienvenue dans Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio G, en direct ou en podcast. Bonjour Seb.
Ouais, salut Adrien.
Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ?
De bandes dessinées, comme d'habitude, hein, on ne va pas changer. Alors, tout d'abord, une petite série qui ressort quand même. Moi, j'attendais ça avec une grande impatience. Bah, vous allez voir ça, hein, c'est Les 4 de Baker Street. Et puis, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de cette sortie qui a été un petit peu vendue depuis quelques semaines, à savoir le dernier Astérix.
Ok. Bonjour Héloïse.
Salut !
Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh bah, bien, aujourd'hui, avec Anaïs, on va co-animer.
Oui.
On co-anime nos chroniques parce qu'on a vu les mêmes choses. Du coup, on se dit c'est plus logique de le faire à deux.
Ah, super. Bah, bonjour Anaïs, du coup.
Salut, salut.
Donc, à deux, c'est toujours mieux. Donc, on va parler sans spoil, bien sûr, du Joker, du film qui est sorti de Todd Phillips. Et on va parler d'une série Netflix.
Oui, une série qui s'appelle Marianne, hein, une série d'horreur française. Une exception hein, dans le genre. On en voit très rarement, voire quasiment pas.
Ouais, et il paraît qu'elle a fait le buzz. Salut c'est Seb. Ça.
Salut. Alors moi aussi je vais parler d'une série française, eh oui, et d'un film, El Camino.
El Camino.
Ah, si, ah, si.
Eh ben, ça promet. Salut Oliver.
Salut.
Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ou qu'est-ce que tu vas nous proposer ?
Alors j'ai préparé un petit quiz très très rapide, mais en fonction du temps, bah, on verra si on le fait ou on le fait pas. Sinon, il sera remis pour la semaine prochaine. Les auditeurs pourront jouer la semaine prochaine, il n'y a pas de souci.
Ok, et on va commencer l'émission avec The Black Keys,
ouais.
Le morceau Lonely Boy sur Radio G. 101.5.
La radio qui fait point.
Le point.
Les trois petits points.
I'm so above you, and it's plain to see.
C'était The Black Keys avec El Camino sur Radio G. Alors El Camino, c'est fort à propos, Seb, tu veux nous dire pourquoi ?
Parce que c'est le titre de la série que j'ai vue récemment, et c'est aussi le titre de l'album des Black Keys.
Super.
C'est une super chanson avec un super clip d'ailleurs.
Ouais, ça met bien en jambe pour l'émission. Alors on t'écoute du coup Seb, hein, pour la
ah
série.
Moi j'ai pas un petit jingle. Ah merde.
Oh pardon, pardon, pardon. Oh là là.
Ah non mais là c'est diète sec.
Tant pour moi, tant pour
moi. Bah du coup Seb s'en va. Non.
Et bah voilà, voilà, voilà.
Il est fâché.
Il n'a pas son
va,
générique. Bon alors on va essayer de le faire à la voix directement. Pam 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 pam.
Attention, il y a un petit jingle qui parle. Un petit jingle qui arrive.
On s'est trompé.
Pam pam pam. Alors El Camino, qu'est-ce que c'est ? Le chemin.
Et bonne journée.
Et l'espagnol. Alors El Camino, en fait, c'est un film Netflix. Enix. Non, en fait, pour tout vous dire, c'est la suite de Breaking Bad. Voilà. En fait, Breaking Bad, c'était une série que tout le monde connaît, une série américaine qui a eu un énorme succès. Elle est dans mon top 3 personnel des meilleures séries de tous les temps. En troisième position. Et donc Breaking Bad, c'était une série géniale où un professeur de chimie atteint d'un cancer devenait un énorme trafiquant de drogue, d'abord pour financer son traitement, pour aider sa famille puisqu'il a plus de travail, il est malade, etc. Et puis finalement il devient un gros parrain de la drogue. Donc c'était génial Breaking Bad, et ça finit, c'est mal, voilà. Mais je vous dis pas comment. Et là l'idée du réalisateur film, et c'est de faire un film qui raconte ce qui s'est passé après mort, hein. Il y a encore des survivants, et en particulier le personnage de Jesse Pinkman, qui était le bras droit, on va dire. Jesse Pinkman, il est mal en point à la fin de la série, mais on ne sait pas ce qu'il devient. Et donc dans le film, en fait, on découvre ce qui lui est arrivé après la fin de la série, après la mort de plusieurs personnages. Et donc lui, lui n'est pas mort, et il a du mal à s'en sortir parce qu'il était drogué. La police, il se cache, comme ses amis, là, Badger, Skinny Pete. Et puis aussi, il y a des flashbacks. Alors ça, c'est encore plus sympa, c'est-à-dire qu'il y a une scène de la série avec Walter White ou d'autres. C'est une marque de voiture américaine donnée pour s'échapper, donc voilà. Et ça veut dire le chemin, aussi, le chemin de Jesse après la fin de la série. Donc voilà, donc, en fait, c'est vachement sympa. C'est nouveau parce qu'on est les personnages, mais c'est un flashback sur la série. Et puis.
Et donc on revoit des acteurs comme...
Ouais,
Exactement, du moins, la même sensation de...
Et en fait, c'est oui et non, c'est-à-dire réaliser le film. Donc ça, on retrouve vraiment l'atmosphère, les personnages, ça c'est nickel. Par contre, c'est pas le rythme d'une série, c'est un film. Ouais. C'est un film qui dure presque 2 heures, donc c'est pas du tout le même rythme qu'une série. Par contre, c'est vraiment la même ambiance, la même atmosphère, les mêmes personnages, donc ça fait plaisir, quoi.
Voilà. Il y a toujours l'avocat, bien sûr, déjanté.
Non,
il y est plus.
Je te le dis pas. Mais non, parce que lui, il a eu son voix un peu tout le monde. Donc voilà. Par contre, faut avoir vu la série. Hein. Si vous avez pas vu Breaking Bad, ça n'a aucun sens.
Ce que tu dis, parce que en me souvenant de la série, de toute façon, sur le dernier épisode, on se doutait qu'il allait avoir une suite, forcément, sous une forme ou une autre. Hein.
Voilà,
c'était déjà évoqué.
Sous la forme d'un film. Voilà, donc je vous le conseille, c'est sur Enix. El Camino, A Breaking Bad Story.
Yes. Attention, ok, super. Intéressant. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu dans un nouveau monde. Là, c'est Anaïs et Louis qui vont nous emmener.
C'est là, tu ne pourras plus faire ma pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu choisis la pile et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Alors, est-ce que vous allez nous en donner une pilule qui fait rire ?
On vous
ça
parle
pas
de
rire. Hein.
On enchaîne sur une série ou un petit film ?
Un petit film. Fait...
Alors, du coup, on est sur le film de Todd Phillips, octobre.
On a parlé.
Le jockey.
Un film dont personne n'a parlé.
Du réalisateur. Qu'est-ce qu'il avait fait avant ?
Il a fait Very Bad Trip.
Voilà, c'est ça. Bah, il est
Projet X aussi.
Projet X,
même genre. Un peu...
Gros scénario. Gros,
et du
gros
coup,
scénario.
En fait, il a eu un gros tournant en termes de travail. Et après, il a fait War Dogs en 2016, je crois, si je me trompe pas. Et là, il enchaîne avec le Joker. Donc, il est plus sur des choses un peu. Avec des gros guillemets policiers, thriller. Le est plutôt bon, le film est vraiment bon. Enfin,
c'est lui qui a fait A Star Is Born.
Il l'a pas réalisé, c'est l'acteur qui l'a réalisé. Et du coup, produit par Todd Phillips.
Donc ça
donc,
fait beaucoup d'argent.
Pour vous faire, oui, c'est le résumé du film. Donc en fait, on suit. Donc Arthur Fleck, qui est un comédien de stand-up raté, il est agressé alors qu'il erre dans son travail. En fait, il est clown dans les bafoués. En fait, il va le Joker, donc le dangereux tueur psychotique qu'on connaît.
Comics sont ce méchant, mais voilà, comment il en est arrivé jusque...
Enfin, tout en termes de comics, mais alors, les origines du Joker sont pas très connues,
non,
en fait.
Non, et en fait, au niveau des... plusieurs Jokers, finalement, on travaillait dessus. On avait Alan Monument, et qui a notamment... Là, il y a beaucoup d'aspects du Joker qui ont été travaillés de plein d'aspects différents, et dans The Killing Joke, entre Batman, il y a beaucoup qui préfiguraient, finalement, un second volet, ou en Batman et sa Némésis. Donc...
Vu le film, je sais pas avoir une suite dans ce film, en fait. Enfin... Bah, mais je suis pas du tout étonnée, mais.
Mais ouais, moi j'attends pas forcément une.
Il se suffit à lui-même.
Oui, exactement, ouais.
Il est assez. Ouais. C'était assez scotchant comme film. Moi je m'attendais pas à ça, j'avais pas lu beaucoup les critiques autour du film. Je m'attendais à un film un peu comme on a l'habitude d'en voir en ce moment sur les suites. C'est vraiment un film finalement d'auteur. Et donc du coup, en fait, c'est assez lent. J'ai trouvé ça.
Oui, mais c'est
non,
beau
ça veut
en
dire
fait.
Chiant, pas
non, pas chiant, la photographie est magnifique. Enfin, les plans sont. Franchement, il est beau ce film. Mais enfin, tu t'ennuies pas.
Cette lenteur nous met dans. Bah, moi, en tout cas, ma mise en tant que spectatrice, oui. Temps, bah, sont assez longues. Font vraiment.
Son personnage d'Arthur Fleck, il est atteint d'une maladie où, en fait, dès qu'il ressent une émotion, soit de la colère, de la tristesse, de la joie, en fait, il se met à rire. Et alors, pour l'avoir vu en. Il a un rire qui est malaisant où on sent qu'en fait il arrive presque plus à respirer. Enfin, il est pas bien et il joue super bien là-dedans en fait. Et j'ai vu sur interview malade connu en fait, il a vraiment joué tout est relatif, mais il a vraiment montré en fait les aspects de
psychiatres qui ont regardé le film et qui ont donné leur avis sur le traitement de la maladie mentale et sur le monde des hôpitaux psychiatriques qui est montré dans côté ça le
oui, Arkham Asylum ouais.
Et voilà qui finalement il reconnaissait quand même des aspects de ce milieu là donc c'est alors, assez réaliste de ce côté là aussi.
Moi ce que j'ai trouvé formidable dans ce film là c'est d'habitude tout ce qui souvent c'est très manichéen, il y a le gentil et le méchant et en fait je trouve que c'est un des premiers films où il y a des nuances de gris qui sont apparues.
Il y avait ça dans Watchmen.
Ouais.
Oui, voilà. Oui, on en parlait tout à l'heure entre
parlait
Watchmen, c'était pareil.
Nuances de gris aussi en même temps. Ouais.
c'est la construction et surtout c'est l'évolution et de gentil et c'est vraiment vraiment très très bien.
Ouais. Alors, le futager, ouais. Hein, il n'y a pas
oui,
que des critiques positives.
C'est pour ça que c'est bien d'aller le voir sans avoir lu des critiques et d'y aller en se disant, moi j'ai envie de dire, est-ce que l'univers...
Finalement, tout est appuyé sur le personnage et qu'il n'y a pas trop d'histoire.
Alors, appuyé sur...
Mais... On s'était dit qu'on ferait une clinique sans spoil parce qu'on ne l'a pas tous vu. Mais,
oui,
mais ceci
c'est
dit,
pas
je
faux.
Trouve que de dire que ce film est violent, enfin, c'est... C'est pas logique en fait, on est sur une fiction en fait. Enfin,
mais tout dépend de quelle violence on parle aussi. Oui. Moi, c'est pas la violence, le sang, la violence psychologique dans ce.
Ce qui rend gênant, c'est jusqu'ici, quand on était dans le monde des comics, on sait qu'on est dans une fiction. Sauf qu'en fait, le travail sur la devient tellement réaliste qu'on n'arrive plus à penser que Gotham, c'est une ville qui n'existe pas. Ça paraît réel. Et en fait,
c'est ça. Il y a beaucoup de gens se griment en Joker, en fait. Là, il y a beaucoup de crises sociales un peu partout dans le monde. Et il y en a plein qui, outre le fait de mettre le...
Parce que finalement, l'histoire
le Joker
de
Joker,
finalement, ça,
c'est pas important.
Du film, question-là, moi, je trouve que...
L'idée sociale dans Gotham, où tu sens que c'est compliqué, en fait. C'est violent, il y a de la violence partout. Et le film, on est vraiment dans une... En fait, il y a vraiment une grosse différence entre les plus riches qui brassent de l'argent. Quoi. Enfin,
je pense
y a vraiment
qu'effectivement,
cette,
la plus
grande monde réel. Quoi.
Ouais. Oui, mais, non, mais le pire, c'est que ça... En fait, c'est pour ça que ça a gêné plein de gens, je pense.
La plus grande déception, pour les gens qui sont venus, j'ai vu des jeunes, effectivement, ils n'ont pas...
C'est un film d'auteur, en fait.
Ouais, c'est
oui,
ça.
C'est ça.
Mais c'est bien, ça a pu amener au cinéma à s'intéresser à...
Sans ceux qui n'avaient pas l'habitude d'en voir, d'aller en voir, justement, et de voir autre chose. Parce que, honnêtement, l'avance de Joaquin Phoenix dedans, mais elle est incroyable, elle est vraiment époustouflante.
Exactement, c'est intéressant. On entend parler de tout à l'heure.
Ah, il trop bien. Il fait
un truc quand même parce que le débat politique, enfin bref tout ça, c'est quand même pas une nouveauté quand même dans les comics de voir cette. Ça a toujours existé dans les.
Finalement, du traitement qui voilà, on n'est plus dans.
Mais
là,
c'est
en fait.
Peut-être aussi les gens aussi en même temps à eux de se dire, on est là sur un divertissement et pas une réalité.
À voir.
En tout cas, voilà, il y a des scènes qui sont
dans les.
Spoil. Une fois
prochaine.
Ah bah voilà, moi ça peut être pareil. Allez, je vous propose d'enchaîner. On va partir avec Gorillaz qui va nous entraîner aussi dans une chanson avec un de ses rires.
Radio G.
Forever high and your lip, it is taking. get it. Yeah, been reppin' in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost tattoo in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty head. And watch the way I navigate.
C'était Gorillaz sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
Alors, on va continuer avec.
C'est une interrogation Héloïse. Écrite à chaque fois.
Héloïse et Anaïs.
Oui, encore nous.
Ah, encore vous.
Alors, du coup, on va vous parler d'une deuxième série. Alors, du coup, on va vous parler de Marianne, donc réalisée par Samuel Baudin. Alors, du coup, je vous fais un petit synopsis. Enfin. Un petit résumé de près. Donc, découvrant que ces histoires terrifiantes deviennent réalité pour affronter les démons du passé qui l'ont poussé à écrire. Alors, on a essayé de trouver court parce que. Genre, voilà, on n'a pas envie de raconter. Encore une fois, on essaye de faire des chroniques sans spoil, hein, bien sûr. Parler avec Anaïs.
Oui.
Alors, moi, je suis plutôt mitigée sur la série. J'ai beaucoup aimé parce qu'en termes d'horreur, elle apportait des nouvelles choses. Il y a des moments où. Où j'ai réellement eu peur. Enfin voilà, c'est sûr, c'est que c'est une série française en fait. Mais honnêtement,
vive la France.
Enfin, il y a des choses que, en fait, il y a des moments où on est vraiment dans le passage où ça fait peur. En fait, l'action elle est cassée parce qu'ils essayent de mettre un espèce d'humour un peu à l'américaine parce que, alors du coup pour Queen, si vous connaissez, qui est une série faite par. C'est une série d'horreur, mais c'est amené avec beaucoup d'humour. Et il y a des moments où en fait on est dans l'action horrifique. Et on nous casse avec, y en a un qui fait une blague à l'autre, et ça casse tout le moment. En fait, on est concentré ou on est dans le un peu dans l'horreur et dans la terreur.
En fait. Ils n'assument pas l'horreur jusqu'au bout.
Bah, en fait, c'est ça. On est toujours entrecoupé en fait de moments qui sont pas drôles. Et il y a des fois où les acteurs, enfin, il y a des choses où les acteurs, enfin, moi je me suis, il y a des moments où je me suis ennuyée où j'étais sur mon téléphone. Et quand je suis prise dans une série, je suis pas sur mon téléphone en fait.
Non, en général, non.
Alors moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Héloïse. J'ai été moins, moi, je l'ai regardé en une journée. J'ai fait d'une traite la série.
Binge watching.
Parce qu'elle, de à peu près 45 minutes en moyenne. Parce
c'est
que
comme
ça
la
varie.
Série dont je vais parler après.
Et en fait,
c'est bien des séries comme ça.
Moi, j'ai trouvé que en termes d'image, d'ambiance, on se retrouve dans un petit village au bord de la mer. Ça évoque pas mal de, ça fait pas mal de le parallèle avec Stephen King. J'ai retrouvé un peu l'univers de Stephen King tant dans le décor que j'ai trouvé
brume.
Vraiment brumeux.
Oui. Oui, c'est ça.
Qui évoque un peu le humain où se passe ça.
Oui.
On a aussi le phénomène de bande d'un groupe de jeunes en fait à qui il arrive quelque chose quand ils sont enfants et qui se retrouvent plus tard et voilà.
Donc, oui, comme dans ça.
Et puis il y a aussi un peu de lien avec Misery sur les problèmes de l'adolescence et tout ça. Moi, j'ai bien aimé l'héroïne, qui est une anti-héroïne parce qu'elle a un franc-parler. Elle est atypique. J'ai bien aimé ce personnage et surtout, moi, j'ai adoré le personnage en fait de Mireille, Herb Smyer. Alors, je sais pas comment on le dit.
Alors, dans le visuel, c'est celle qui.
C'est celle qui représente
qui est
Marianne
en fait,
et qu'on voit finalement très très vite, qui finalement reste pas. Bah voilà, on va pas dévoiler, mais.
Non, on a dit qu'on spoilait pas.
On
aujourd'hui.
Spoil pas. Mais non. elle livre une performance, mais
elle est
vraiment flippée. Mmh. Et elle est vraiment parfaite dans ce rôle-là.
Apparemment, ça fait un carton aux États-Unis cette série.
Ah ouais?
Ouais, bah. Pareil. En tout cas, il y a des.
Ça alors?
Tu sens ma déception? Ah ouais?
Des réalisateurs voilà. Américains qui ont dit qu'ils étaient impressionnés. Et les Américains, les États-Unis en tout cas, qui l'ont vu, ont été vraiment absolument terrifiés.
En termes d'horreur, elle est vraiment bien, mais il y a quelque chose où il y a
c'est
des fois où.
Quoi.
Oui, en fait, c'est ça. On pouvait pas être vraiment dans le moment. Et il y a des choses qui... Enfin, honnêtement, j'ai dit que je spoilais pas la fin. Non. Mais la fin, je m'y attendais.
Le dernier
épisode, je savais ce qui allait se passer. Et c'est toujours un petit peu décevant, ce moment-là où on se dit, non, mais ça y est, je sais déjà ce qui va se passer, ça m'ennuie.
Ouais, tu vois venir.
Ouais. C'est un peu...
C'est pas que ça m'ennuie, mais voilà.
C'est un petit peu comme une affaire de famille.
Family business.
Exactement.
Alors, c'est le moyen parfait.
J'adore. Oh, c'est magnifique, ça.
C'est magnifique.
Alors, family business, c'est quoi? Ah, tu mets un petit...
Ah ouais, je te mets un petit jingle, je te l'ai pas mis la dernière fois.
Ouais, c'est magnifique, ça. On est loin de Magnum, je vais vous dire. Alors par contre, il y a un point commun avec votre série, les filles, c'est que c'est une série française. Et que du coup, c'est inspiré, carrément inspiré de l'univers américain. Comme vous, là, c'est pas Stephen King, c'est plutôt Weeds.
Oui, ouais,
c'est
carrément. Oui.
Alors, Family Business, registre. C'est l'histoire de Joseph. Alors, Joseph, moi, il est joué par un acteur que j'adore, c'est Jonathan Cohen. Cohen, il est hyper drôle. Ouais. Et dans cette série, donc, il joue Joseph. Et Joseph, c'est un entrepreneur raté, en fait. C'est un type, il tente plein de trucs, mais à chaque fois, ça foire complètement. Et là, il apprend par une copine que le cannabis va être légalisé. Alors là, il se dit quoi, Joseph ? Parce que comme il a toujours des idées farfelues, il décide de transformer la boucherie cachère de son père, parce que son père, c'est Gérard Darmon.
J'adore Gérard.
Gérard Darmon,
il est
génial.
Super,
Alors, vous imaginez Gérard Darmon et Jonathan Cohen, hein. Là c'est énorme. Donc Gérard Darmon, il a une boucherie cachère, et il décide, Joseph, de transformer, avec l'aide de sa famille et de ses amis, la boucherie cachère de son père, et d'ouvrir le premier coffee shop de marijuana de France.
Oh là 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 là.
Et là, je peux vous dire que ça part en vrille, mais tout de suite. Parce que Joseph, il est nul, il rate tout ce qu'il tente. Alors c'est hyper drôle, vraiment, si vous voulez vous... Alors l'histoire est pas hyper originale, ça fait penser à Weeds, ça fait penser à plein de trucs.
Ouais, mais l'humour est vraiment
Mais alors là,
sympa.
Pour le coup, l'humour est...
Voilà, avec Gérard Darmon, c'est sûr.
Ils ont lâché la bride, là. Il y a Enrico Macias, il y a tout le monde, il y a toute la famille. Donc c'est génial.
Et la fin, ça part carrément en
cacahuète. Ça part en cacahuète, parce que Joseph, il rate tout ce qu'il tente. Voilà, donc ça aussi, il le rate, mais c'est super drôle. Et regardez Family Business, je vous le conseille. C'est assez court, là aussi, il doit y avoir 6 épisodes ou un truc comme ça d'une heure. C'est même pas, c'est super.
6 épisodes d'une heure, et du coup, c'est dispo.
C'est dispo sur Enix.
il y aura
sûrement une saison 2, parce qu'à la fin de la saison 1, finalement, il y a un peu un cliffhanger.
Et ben, on pourra dire la même chose de Marianne aussi. Voilà,
oui,
saison 2 à venir.
C'est sûr.
En clair, si la série fonctionne bien, il y aura une saison 2.
Non, mais c'est drôle.
Comme pour les films et comme pour plein d'autres choses.
Si vous voulez vous marrer, passez un bon moment, regardez Family Business.
Ok, super.
Bah, on la vérité, si je mens.
On attend d'ailleurs plus la suite de Family Business parce que là, il y a vraiment.
Et moi, et Jonathan Cohen. Tonton Samy.
Oh là 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 là, ça a l'air super. On a une hype sur la saison 2 là. Attention, attention. En plus, en ce moment, on peut pas dire que la météo soit vraiment clémente. Et il y a Héloïse qui nous propose une petite chanson de Guérilla Poubelle pour mettre quand il pleut.
Excellent.
Alors, parce que j'en ai reparlé avec des copains il y a pas longtemps et je les ai vus cet été au Héron Carré. Gratuitement, ils passaient en concert avec d'autres groupes que j'aime bien. Donc Guérilla Poubelle, moi, c'est le groupe de ma jeunesse et cette chanson.
De ma jeunesse. Ça va, mamie.
Non, mais c'est un groupe que j'ai écouté au lycée et j'adore cette chanson. Je trouve qu'elle a pas vieilli, donc voilà. Alors, baissez un peu le son, c'est un peu fort. Enfin, voilà,
montez le son, c'est trop fort,
c'est
que vous êtes trop vieux.
C'est du punk, voilà.
Alors, Demain il pleut de Guérilla Poubelle sur Radio G 101.5.
La radio qui fait le point.
C'est pas que je crois en rien, je crois plus tout court, ça me convient. Chez moi, il fait trop perdu mon drapeau. Je crois plus que c'est plus laid. J'ai oublié de créer sa peau, j'ai oublié de fêter sa grève. Mettez encore moi, on est pire, désolé, je me sens pas bien. Trop presque de mourir pour écouter ton baratin. Je m'emmerde. We'll be right back.
aurait pu s'ouvrir les veines. Et Paris serait beau.
Ouais.
Je m'en
vais. Ouais, merci Héloïse.
Ah bah de rien, c'était cadeau.
C'était Guérilla Poubelle, Demain il pleut sur Radio G.
C'était mon petit moment punk pour vous.
Si vous aimez le punk rock et le métal, n'oubliez pas donc le 15 et le 16 novembre à Mur-et-Rigné le festival Mega Sound Fest et on en parlera la semaine prochaine dans l'émission.
Exactement, oui. Donc restez connectés surtout en direct et en... ce sera mieux en direct qu'en podcast, pour le coup.
Avec une grosse grosse tête d'affiche. Hein,
Ultra Vomit, Tagalet Jones,
No One is Innocent. Les Ramoneurs de Menhir.
Ouais, ça, ça défonce, ils étaient passés au Hellfest, c'était énorme.
Ouais. Ouais, c'est énorme.
Et c'est vraiment un groupe à suivre.
Et moi, je pense à un de nos auditeurs qui nous entend.
Eric, il y va.
Eh bah oui, ça, je n'en doute
salut
absolument
Eric,
pas. Salut Eric.
Salut Eric.
Et bon festival.
Et bon festival.
Et à la semaine prochaine.
Well, if you give me a chance, I was going to call you a crazy pig fucking dumbass pussy piece of shit.
Oh brother, you're a dead man.
Alors Seb, où est-ce que tu vas nous emmener aujourd'hui?
Oh bah je vais vous emmener pas très loin, je vais vous emmener à Londres, Londres au 19e siècle avec les 4 de Baker Street, le tome 8 qui nous est apparu aux éditions Vent d'Ouest. Jehan, Étienne et Legrand nous remettent en action les enfants, les auxiliaires de Sherlock Holmes. Donc nous sommes en 1894, la tension monte sur les docks londoniens. D'un côté, la loi du silence d'oncle Wang et de ses sbires qui règnent d'une main de fer sur le quartier chinois. De l'autre, la violence aveugle des mad dogs truands cockney, bien décidés à venger leur chef mystérieusement assassiné. Chargé par Sherlock Holmes de surveiller cette situation explosive, Billy, Charlie et Black Tom, accompagnés du fidèle Matthew Watson, vont se retrouver pris entre le marteau et l'enclume. Qui se lèvera pour tenir tête au maître de Limehouse? Qui se cache derrière le signe du scorpion écarlate? Et qui sera la prochaine victime? Le grand retour des 4 de Baker Street dans une aventure pleine d'action, de mystère et d'émotion.
Tu donnes bien. Ouais, tu donnes toujours autant envie quand tu parles de BD.
Je lis simplement la 4e de couverture.
Mais, oui, mais c'est magnifiquement lu.
Il balance tout, mais faut pas le dire.
Mais non, mais bon, mais je dis mes petits secrets, c'est tout, mais je suis pas secret, voilà.
Il y a des gens qui vivent la 4e de couverture.
C'est la radio.
Voilà, c'est de la radio. Alors bien sûr, on retrouve avec grand délice nos 4 personnages, hein, nos 4 aventuriers des 4 de Baker Street. Moi c'est franchement vraiment un très très grand plaisir et puis on a cet univers qui est propre à Sherlock Holmes, justement, qu'on retrouve avec grand, grand plaisir. Donc moi, je vous le conseille quand même. Voilà, ça, c'était la première bande dessinée. Maintenant, on va passer sur quelque chose qui va me fâcher un petit peu.
T-Rex.
Ouais. Ouais, remarque, le générique va avec...
Bah, c'est ce que je me suis dit.
Ouais, non, mais t'as raison. Alors...
Arrête ton char.
Ouais, arrête ton char.
La bagarre.
Vous voulez d'autres?
Ouais, on y va. Alors, bon, alors, comment dire? La fille de Vercingétorix, le nouvel album d'Astérix. Alors,
je sens que là, tu vas pas nous
convaincre. Faut pas trop souffler dans le micro. Ouais,
ouais. Je sais, je peux pas trop souffler dans le micro, mais comment dire?
T'es déçu, quoi.
Bah, je suis...
Mais on a dit de pas souffler.
Non, mais j'essaye de...
Fallait manger, fallait qu'il mange.
Bah, ouais, non, là, honnêtement, bon, c'est mou du genou.
C'est pas
un des meilleurs albums. Pour moi, ça va pas être le meilleur album d'Astérix. On est un petit peu bon. On essaye de renouveler le genre. On essaye de trouver de nouvelles aventures.
Qui sont les auteurs?
Alors les auteurs, c'est Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Alors sur le dessin, il y a pas de problème. On est bien sur la fidélité. Là, on est sur la continuité. Sur le texte, bah, il nous manque quelque chose hein, quand même. Il nous manque l'humour de notre cher Goscinny, hein, ou voire même de Uderzo aussi en même temps. Les jeux de mots ne sont pas légion là cette fois-ci. C'est plat.
Ah ouais.
C'est plat dans les discours. Même les noms des Romains ou des Gaulois. Excusez-moi, je souffle, hein, mais je suis vraiment déçu. Parce que On a un personnage qui est sympathique, il y a un potentiel effectivement, mais on essaye de faire des choses de bien. Et moi personnellement, là, j'ai pas été non plus. Voilà, je suis pas super accroché quoi.
Déception.
Alors là, cette fois-ci, le thème c'est l'adolescence chez les Gaulois. Donc autant vous dire que là,
la ça, gauloiserie,
quoi. Ouais, la gauloiserie, la grivoiserie, quoi. Enfin bref,
c'est lourd, quoi.
Ouais, c'est lourd. Enfin bref,
c'est lourd. Avec des guillemets, quoi.
Avec des guillemets.
Avec
des guillemets dans le sens. Ouais, mais pas le grave dans le sens.
On va dire,
C'est un peu plus de
vu en concert, parce que j'ai un petit piano et Romain. Un petit clin d'œil à Romain.
Alors on est parti pour les années 2000.
Exactement.
C'est pas dans la balle.
Alors, c'est les règles de la